OK, on commence notre 45e leçon dans notre série Le péché, le du commandement, la grâce. Aujourd'hui, on va voir le quatrième point du calvinisme, la grâce irrésistible ou certains l'appellent l'appel efficace. Alors, on va réviser un petit peu l'acronyme TULIP pour revoir un peu depuis le début. Alors, T, Total Depravity, N, Inability, donc pour dépravation ou corruption totale et impuissance de l'homme. Le U pour Unconditional Election, élection inconditionnelle. Le L pour Limited Atonement, rédemption particulière. Le I pour Irresistible Grace. Et le P pour Preservation and Perseverance of the Saints, préservation et persévérance des saints. Donc on étudie aujourd'hui la lettre I pour Irresistible Grace, qui veut dire grâce irrésistible ou appel efficace. Commençons par une définition simple. C'est la doctrine biblique qui soutient que Dieu le Saint-Esprit n'échoue jamais à amener au salut les pécheurs qu'il appelle personnellement à Christ. Il applique inévitablement le salut à chaque élu de Dieu et c'est sa ferme résolution de sauver tous les élus et seulement eux. Nous devons faire une distinction entre l'appel général extérieur et l'appel spécial intérieur. Dans l'appel général extérieur, nous voyons le ministère de la prédication de l'Évangile qui s'adresse à tous ceux qui entendent de leurs oreilles physiques. C'est l'appel qui promet le salut à ceux qui se repentent et qui croient en Jésus-Christ. Donc l'appel général extérieur n'amènera pas les pécheurs à Christ, parce que les hommes sont spirituellement morts et dominés par Satan et le péché. Les hommes sont incapables par eux-mêmes de se tourner vers Christ pour demander sa miséricorde et refusent volontairement de quitter leur mauvaise voie. Conséquemment, les irrégénérés ne répondront pas à l'appel de l'Évangile, à la foi et à la repentance, ni les menaces extérieures, quelque nombreuses et puissantes qu'elles soient. Ni les promesses n'amèneront les pécheurs aveugles, sourds et rebelles à se prosterner et reconnaître Christ comme leur Seigneur et à ne regarder qu'à lui pour leur salut. Un tel acte de foi et de soumission est contraire à la nature de l'homme déchu. Dans l'appel spécial intérieur, celui-ci est reçu en plus de l'appel général extérieur. C'est le travail de grâce effectué par le Saint-Esprit qui amènera le pécheur inévitablement à croire en Christ. Le changement intérieur amènera l'élu à comprendre et à croire aux vérités spirituelles. Dans le monde spirituel, il se voit donner des yeux qui voient et des oreilles qui entendent. L'Esprit Saint crée en lui un cœur nouveau ou une nouvelle nature, donc la nouvelle naissance ou la régénération. Le pécheur reçoit la vie spirituelle et devient un enfant de Dieu. Sa volonté est renouvelée par ce processus et il vient librement et spontanément à Christ. Son esprit est éclairé et se met à aimer la justice et veut se détourner du péché, donc la repentance, et à se tourner vers Dieu et sa parole, donc la foi. Cet appel n'échoue jamais. Il résulte toujours en la conversion du pécheur élu. Cet appel n'est fait qu'au pécheur élu. Le Saint-Esprit n'est en aucune façon dépendant de l'aide ou de la collaboration de l'homme pour le succès de son œuvre. Pour cette raison, les calvinistes ont appelé cet appel irrésistible, efficace ou invincible. La grâce du Saint-Esprit aux élus ne peut être refusée ou contrecarrée. Donc, le premier point qu'on va regarder aujourd'hui, c'est que le salut est l'œuvre du Dieu trinitaire. Romains, chapitre 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10 à 14, « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 11. « Et c'est lorsque vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » 1 Corinthiens 12, verset 3. « C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. » 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6, « Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. » 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17 et 18, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » 1 Pierre chapitre 1, verset 2, « Et qui sont élus, selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Le deuxième point qu'on va regarder, la régénération et l'œuvre du Saint-Esprit. Donc l'auteur de la régénération, c'est le Saint-Esprit. Jean chapitre 1, verset 12 et 13. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Jean chapitre 3, verset 3 à 8. Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Tite, chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, on a vu que l'auteur de la régénération, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, l'auteur, il se sert d'un instrument, et cet instrument-là, c'est la parole de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Alors, j'aimais bien l'image qu'on avait présentée un peu à l'école biblique. C'était un instrument de musique. S'il n'y a pas quelqu'un qui souffle dedans, ça ne donne aucun son. Alors, la parole, si l'Esprit ne souffle pas dedans, c'est exactement ça qui se passe dans le salut. Donc, l'auteur, c'est le Saint-Esprit qui souffle. L'instrument, c'est la parole dont Dieu se sert pour amener au salut. Donc le pécheur, par le Saint-Esprit, reçoit une nouvelle nature. Deutéronome chapitre 30, verset 6. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Galates chapitre 6, verset 15, « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Éphésiens chapitre 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 et 18. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Donc, le pécheur élu a été rendu vivant spirituellement. Jean, chapitre 5, verset 21. « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Éphésiens, chapitre 2, verset 1 et verset 5. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Et verset 5. « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ et par la grâce que vous êtes sauvés. » Colossiens 2, 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Troisième point qu'on va garder, la révélation intérieure est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, Dieu révèle à ses élus les secrets de son royaume à travers la révélation intérieure personnelle donnée par son Saint-Esprit. Matthieu 11, versets 25 à 27. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Luc 10, 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Matthieu 13, versets 10, 11 et 16. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Luc 8, verset 10. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Matthieu 16, versets 15 à 17. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Jean 6, versets 37, 44 à 45 et 64, 65. Verset 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » 44, 45, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. » Ainsi, quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement, vient à moi. 64 et 65, « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. » Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 et 4, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Éphésiens chapitre 1, versets 17 et 18. « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Jean chapitre 10, versets 3 à 6, versets 16 et versets 26 à 29. 3 à 6, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. » 26 à 29, « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Quatrième point qu'on va regarder, la foi et la repentance sont les œuvres du Saint-Esprit. La foi et la repentance sont des cadeaux divins. La foi et la repentance sont amenées dans l'âme de l'élu par l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit. Acte 5, 31, « Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Acte 11, verset 18, « Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Acte 13, 48, « Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. » Acte 16, verset 14, « L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que Paul disait. » Acte 18, verset 27, dans la version David Martin. « Et comme il voulut passer en Achaïe, les frères qui l'y avaient exhorté écrivirent aux disciples de le recevoir, et quand il y fut arrivé, il profita beaucoup à ceux qui avaient cru par la grâce. » Éphésiens 2, versets 8 et 9, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Philippiens chapitre 1, verset 29, « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » 2 Timothée chapitre 2, verset 25 et 26, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Cinquième point qu'on va regarder, l'appel spécial intérieur est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors que le ministère de la prédication de l'Évangile adresse un appel général extérieur en vue du salut à tous ceux qui entendent le message. En plus de cet appel, le Saint-Esprit adresse un appel spécial intérieur aux élus seulement. L'appel général extérieur peut et souvent est rejeté. L'appel spécial intérieur ne peut jamais être rejeté. Il résulte inévitablement et infailliblement la conversion de ceux qui le reçoivent. Romains 1, versets 6 et 7. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Romains 8, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 9, versets 23 et 24. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 1 et 2, versets 9 et versets 23 à 31. Verset 1, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et tous ceux qui invoquent en quelque lieu le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Verset 9, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et verset 23-31, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous, sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Galates, chapitre 1, versets 15 et 16. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Éphésiens 4:4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. 2 Timothée chapitre 1 verset 9. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour le méchant et le rebelle, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers. Hébreux, chapitre 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Jude 1:1. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. 1 Pierre 1:15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert pour un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et il les a appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Sixième point, l'application du salut aux élus est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, il y a une participation à trois niveaux, dans les antécédents du salut, dans le commencement du salut et dans la continuation du salut. On va regarder d'abord, dans les antécédents, le Saint-Esprit applique le salut à ceux choisis par le Conseil souverain du Dieu trinitaire. Donc, il participe dans ce sens que déjà dans le Conseil trinitaire, il était là pour décider qu'il appliquerait éventuellement aux élus. Alors, dans les antécédents du salut, il participait. Il participait aussi dans le commencement du salut. Le Saint-Esprit applique le salut à ceux choisis dans les aspects subjectifs du salut, donc l'appel spécial interne, la régénération, la conversion qui comprend la foi et la repentance. Donc, le commencement du salut, c'est lui qui le fait par la régénération et l'appel spécial interne. Et dans la continuation, donc dans les antécédents du salut, dans le commencement du salut et dans la continuation du salut, alors le Saint-Esprit applique le salut à ceux choisis en les sanctifiant au cours de toute leur vie. Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire du texte de cette brève étude? Premièrement, notons qu'il y a une parfaite similitude entre les élus du Père, les rachetés du Fils et les sanctifiés du Saint-Esprit. Deuxième application, remarquons que l'homme est totalement passif pour la réception du salut. Troisième application, le salut est une œuvre divine qui ne nécessite aucune participation de l'homme ou de coopération. Alors, c'est les fameux deux approches, le synergisme et le monergisme. Si vous allez sur les sites un petit peu anglophones, il y a des sites qui sont spécialisés, qui vont s'appeler monergism, c'est vraiment l'approche calviniste. Et synergisme, synergie, ça veut dire, ergie, ça veut dire travailler. Syn, ça veut dire ensemble. Quand tu dis qu'en théologie, tu as une approche synergique, ça veut dire que tu dis que dans le salut, c'est la collaboration de l'homme avec le Saint-Esprit qui fait en sorte que le salut arrive. Monergisme, ça c'est notre position, c'est que c'est pas toi qui collabore avec le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Alors, c'est vraiment le monergisme, quand on dit, c'est vraiment important de saisir les deux, là, parce que, disons que les Arméniens, eux, vont avoir une approche synergique. Autrement dit, pour eux, ils disent que c'est à la fois eux et le Saint-Esprit qui vont faire le travail. Alors, quand tu lis les Écritures de façon correcte, tu les interprètes de façon correcte, alors, tu finis par comprendre. Alors, quatrième application. Les erreurs avec la doctrine de la grâce irrésistible conduisent vers d'autres doctrines concernant... Alors, ça, c'est pas nouveau. Dès que tu fais une erreur en théologie sur Christ ou sur Dieu ou sur le salut, ça va automatiquement se répercuter sur d'autres. Alors, ça, c'est très important. Alors, si tu fais une erreur sur la doctrine de la grâce irrésistible, ça va avoir des répercussions sur la doctrine des personnes et des œuvres de Dieu le Père, les œuvres de Dieu le Fils, les œuvres de Dieu le Saint-Esprit. Ça va avoir des répercussions sur ta compréhension de la nature du péché, son étendue et sa profondeur. Ça va aussi te conduire vers des fausses notions théologiques concernant l'homme, sa chute et les conséquences de sa chute. ça va t'emmener aussi des erreurs sur les saintes écritures, leur interprétation, la place de la raison et l'harmonisation de passage, vont t'emmener aussi des erreurs sur la nature de l'Église, son rôle, sa mission et son unité. Par exemple, est-elle composée de régénérés ou d'irrégénérés, de croyants ou de professants, une foi qui sauve ou une foi morte, des méthodes d'évangélisation biblique ou des méthodes d'évangélisation anthropocentrique, une séparation avec les faux croyants ou une collaboration universelle, l'écuménisme ou l'unité réelle, l'adoration réelle ou l'amusement du peuple. Oui. Alors, c'est important de saisir que quand tu fais une erreur en théologie, ça se répercute sur presque toutes les autres doctrines des Écritures. Alors, c'est important d'avoir les doctrines solides puis de voir que des erreurs se répercutent ailleurs. Parce que si on ne voit pas ça... Alors, on va terminer en disant, gardons fermement le bon dépôt par sa grâce et pour sa gloire.
Amen.
Amen.